Bienvenue à tous et à toutes. Si vous venez de nous capter, vous écoutez le studio Kalangou, Diallo Maria Makenda au micro. Il est 18h, le journal en français, c'est tout de suite. Bonsoir à messieurs, dames, voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Célébration ce 6 février de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une pratique encore vivace dans certains villages de la région de Baradi, des précisions dans ce journal. La collecte des armes illicites dans la région de Diffa au centre d'une réunion ce matin à Diffa entre autorités administratives, forces de sécurité et la commission de collecte des armes illicites écho dans cette édition. Enfin, nous irons dans le département de Kanché ce soir, dans votre partie magazine, où nous verrons que les femmes fuient l'insécurité alimentaire permanente dans la zone et se rendent en Algérie voisine pour un mieux-être. Merci de rester en notre compagnie. Ouverture ce matin à Niamey de la 4e conférence des chefs d'État du G5 Sahel en présence des présidents de Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, du Tchad Idriss Déby, du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, du Burkina Faso Roch Marc Christophe Kabore et du Niger président Hote Issoufou Mahamadou. À l'occasion, le chef de l'État du Niger prendra la présidence tournante de l'organisation. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 6 février la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. À Maradi, selon la Direction régionale de la protection de la femme et de la protection de l'enfant, la pratique la plus fréquente dans les villages est l'ablation du Danguria. Bibata Kone, adjointe à la directrice, au micro de Mohamed Maman.
À Maradi, la réalité est qu'on pratique cette mutilation génitale féminine, surtout dans les villages un peu éloignés. Et cette pratique, ça concerne surtout le Danguria. Le Danguria, c'est un organe qui apparaît au niveau de l'orifice vaginal de la femme, surtout de la petite fille, dès la naissance. Et quand on constate ça, on fait appel aux Wanzam. Ce sont eux qui interviennent pour pratiquer cette mutilation, avec toutes les conséquences que cela comporte. Non seulement il y a le traumatisme au niveau de l'enfant ou de la petite fille, il peut survenir des hémorragies ou infections qui peuvent conduire à la mort. Ou bien dans le cas échéant, ça peut conduire à la stérilité de la fille. Une fois grande, elle se marie, on constate qu'il y a un problème. Alors que peut-être que c'est dû à cette pratique-là, parce que ce n'est pas fait dans les conditions hygiéniques normales. Parce que normalement, ces pratiques-là sont à bannir. Elles sont même punies. Ces punitions peuvent amener jusqu'à l'emprisonnement de la personne. Parce qu'on a eu des cas de femmes ou bien des hommes qui ont été emprisonnés par rapport à ces phénomènes de mutilation génitale féminine.
Au cours du mois de janvier, selon le bulletin d'Ocha, deux attaques ont visé des positions militaires à Tomour et à Tchétima, Wongu, région de Diffa. Au cours de la même période, les attaques ont fait 13 civils tués et 7 personnes enlevées. La menace persiste et on note la reprise des activités des éléments de Boko Haram. Les mouvements de ces éléments sont signalés le long de la frontière au bord de la berge de la Komandougou avec le Nigeria. Les assassinats et les enlèvements de civils ont continué avec une fréquence inquiétante, précise Ocha. La collecte des armes illicites dans la région de Diffa au centre d'une réunion ce matin à Diffa entre autorités administratives, forces de sécurité et la commission de collecte des armes illicites. Alassane Foussami, coordonnateur du projet CDAO Union européenne sur les armes légères, au micro de Adam Baboukarna.
Quelle stratégie en période de guerre procéder, utiliser pour pouvoir récupérer le maximum d'armes? Donc c'était l'objectif de la réunion de tout à l'heure. Après, on va rencontrer les autorités communales, les chefs traditionnels, les éleveurs, les agriculteurs, pour comment essayer d'agir pour la réduction de la violence armée dans la région de Diffa. On dit que la stratégie communautaire, c'est la meilleure stratégie. Comment impliquer les populations? Comment impliquer les leaders communautaires et de Pinon pour qu'on puisse mieux asseoir une meilleure stratégie qui va nous permettre au fur et à mesure de récupérer les armes illicites dans la région? compte tenu maintenant de la situation, quand on va parler de la prolifération des armes, la circulation maintenant c'est la région de Diffa. Mais vous savez, il ne faut pas perdre de vue la grande bande de circulation des armes de tout genre, c'est la région d'Agadez, avec les vastes frontières terrestres, vastes désertiques, avec la Libye, l'Algérie et les autres zones. Donc pour le moment, c'est les deux grandes régions qui sont concernées où les flux d'armes s'accentuent et qu'il faut y prendre des mesures idoines pour y faire face.
Propos recueillis par Adam Baboukarna. Retour sur la journée écran noir, silence radio et page blanche observée hier par plusieurs médias suite aux mots d'ordre lancés par les organisations socio-professionnelles de la presse, des journalistes et patrons des médias indépendant de Niamey. Ce matin, notre reporter Gungu Maman Dantani est parti à la rencontre de quelques lecteurs de journaux pour recueillir leurs réactions que je vous propose d'écouter.
Je pense que, pas seulement moi, mais l'ensemble de téléspectateurs et de auditeurs sont restés un peu tristes. Mais je pense qu'il appartiendra à chacun de nous de lutter pour une presse libre dans notre pays. C'est ça la démocratie, c'est ça la République.
Concernant la page noire hier sur nos écrans, c'est une situation qui est déplorable. Dans un pays qui se dit démocratique, ce genre de choses ne doivent pas se passer normalement. Nous autres Nigériens, c'est à travers ces journaux-là qu'on arrive à s'informer et c'est à travers ces journaux-là qu'on arrive à lancer un cri de cœur.
Nous sommes franchement condamnés. Sans information, nous ne pouvons pas évoluer. Sans information, c'est notre liberté qu'on est en train maintenant de nous bloquer. Chacun a son droit de lire et d'apprendre et de savoir ce qui se passe chez nous.
S'il n'y a pas d'informations, s'il n'y a pas de journaux, sans ça c'est zéro. Donc maintenant vraiment, le Niger est en chaos.
Propos recueillis par Gungu Maman Dantani suite au sitting organisé dimanche à Niamey par le front de l'opposition indépendante FOI à la place Tomo, la police a mis aux arrêts plusieurs manifestants ainsi que des leaders dont Intinikar Alassane, président du parti PNDP, Akalkassa Ibrahim Bana de Lumana, le président du CRDN Zamani, Lawali Mato Mama Nassourou, vice-président du FOI, explique au micro de Moussa Hassan.
Nous avons passé toute la journée à la place Tomo. Vers 23h34, nous avons constaté la présence des forces de l'ordre. Ils ont fait irruption, ils nous ont gazé avec leur lacrymogène là. Et parmi nous, ils ont pris une dizaine de camarades, juste 10. Parmi eux, nous avons le camarade Ibrahim Bana de Lumana et le président du PNPD à Kalkassa, qui est le porte-parole même du FOI. On leur reproche d'avoir fait une manifestation illégale et d'avoir fait des tapages nocturnes. Et moi, ça m'étonne fort que la police parle de ça. Nous avons bel et bien rédigé un papier administratif qu'on a déposé auprès des autorités 2 semaines avant notre manifestation. Et nos camarades ont été pris manu militari pour être déportés au niveau de la compagnie de la police. Après, on les a déférés ici à la PJ et ça fait 48 heures. Il a fallu maintenant tout de suite à 13 heures là que vous êtes venus pour qu'on puisse voir nos camarades. C'est comme si on est en train de nous pousser à agir mal.
Après l'incendie qui a ravagé les 31 classes en paillotte du CEG 35 de Niamey, la semaine dernière, les bonnes volontés se sont manifestées pour la reconstruction des salles. Hier, une équipe du studio Kalangou s'est rendue à l'établissement. Voici le constat.
Nous sommes dans la cour de l'école CEG 35 de Niamey où, il y a quelques jours seulement, l'ensemble des classes en paillotte sont parties en fumée. Aujourd'hui, avec la collaboration de certaines bonnes volontés, l'école compte 12 classes bien équipées. Un réel motif de satisfaction pour Abdou Hassan, le directeur de l'établissement CEG 35.
Il y a 12 classes en paillotte qui sont donc fonctionnelles, mais on attend toujours quand même l'établissement. Il y a l'ONG NCC qui a nous fourni une centaine de établissements. Maintenant, nous attendons aussi la réaction des autres, des bonnes volontés pour nous aider vraiment à récupérer ou bien avoir d'autres établissements.
Pour les donateurs, l'objectif de ce geste est de venir en aide aux élèves de cette école, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Ina Karanta affirme qu'ils ne sont pas à leur premier geste de secours.
Nous avons donc en 48 heures lancé un appel à contribution à nos membres et ils ont réagi comme d'habitude. En tout cas, notre objectif pour le week-end, c'était de faire 9 classes et nous avons dépassé et nous allons continuer parce que grâce à nos contributeurs, nous avons un budget de reconstruire donc les classes.
À noter que l'incendie est intervenu dans cette école au moment où les responsables de l'école ont programmé les compositions du premier semestre. Cependant, ils ont réussi à organiser ces évaluations dans les écoles primaires Bobiel 1 et 2.
Reportage réalisé par Habibou Gerba. Les étudiants de l'université de Zinder sont de nouveau en grève depuis hier de 96 heures pour exiger la démission du recteur et de son adjoint. Écoutons à ce sujet Lawali Garba Ismaël, secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zinder. Il est au micro de Mustapha Mamansani.
L'UNUS est dans un combat qui consiste à exiger le départ sans condition du recteur et du vice-recteur de l'Université de Zinder. C'est ainsi, après avoir cité les responsabilités de ces deux personnes, après avoir organisé tant de sittings, de sorties médiatiques jusqu'à mot d'ordre de 48 heures la semaine passée, et constatant la volonté non manifeste des autorités à répondre à l'appel de l'UNUS, que nous sommes décidés de sécher les cours pour une durée de 96 heures afin de pouvoir aussi continuer la lutte tant qu'il n'y aura pas gain de cause par rapport à cette revendication juste et légitime de l'UNUS. De manière citoyenne, dans un premier temps, le bon sens voudrait à interpeller la conscience de ces deux responsables. C'est ainsi que nous les avions invités à démissionner. Nous en disposons des preuves palpables et convaincantes à notre niveau, témoignant leur incapacité et la malgestion depuis leur arrivée ici à l'Université de Zinder.
Propos recueillis par Mustapha Mamansani. L'équipe nationale de football dames du Niger, les Gazelles, se prépare activement pour la Coupe de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de football, IFAO, qui se déroulera du 14 au 24 février 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quel est le niveau de préparation de cette équipe? Ali Mamadou Badje, entraîneur de l'équipe.
On a quand même eu la chance d'avoir tout le monde sous la main, ce qui nous permet de faire un travail de fond, un travail d'équipe. Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous sommes à 98% de résolution. Le seul problème qu'on a, c'est au niveau des pièces d'identité de certaines filles. Vous n'êtes pas sans savoir que pour ce tournoi, on joue avec des passeports. Mais Inch'Allah, d'ici 48 heures, on aura fini avec ce problème. Les joueuses, elles sont en bonne santé. J'ai pas eu de blessure majeure au cours de la préparation. Presque toutes ces filles-là ont l'habitude de compétir. Nous allons à ce tournoi d'abord pour apprendre. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Si l'occasion se présente, nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on fasse une bonne participation. On a besoin du soutien de la population. Tout celui qui peut faire quelque chose pour cette équipe, il est le bienvenu.
Pour recueillir par Soumana Amadou la partie magazine de ce journal, donc pour parler des femmes qui fuient l'insécurité alimentaire permanente dans la zone de Kanché pour se rendre en Algérie voisine pour un mieux-être.
Par rapport à l'accès des femmes au foncier, je peux dire que les femmes ici, de la même façon que les hommes, quand il y a le partage d'héritage, la femme accède au foncier au même titre que l'homme. Et je peux vous dire que aujourd'hui, les femmes qui vivent sur le territoire de la commune rurale de Kourni ne vivent que de l'agriculture. Elles héritent des champs et elles mettent les champs en valeur. Et pour dire que la gestion de la famille aujourd'hui est devenue quelque chose de collégial. Et la femme et l'homme, chacun doit mettre la main dans la pâte pour essayer de prendre en charge la famille toute entière. Ce qui fait que nous avons vu des femmes agriculteurs, des femmes qui produisent, qui mettent en valeur plusieurs hectares de terre. Malheureusement, ici, ce que je tiens à noter, le flux démographique a fait en sorte que les terres sont tellement morcelées, les superficies cultivables sont moindres. Pour vous donner un chiffre, l'actif agricole dans le département de Kanché, elle est de 0,75 hectares. Ce qui fait qu'un chef de ménage dans le département de Kanché ne peut que cultiver 0,75 hectares. Avec nos familles de plus de 12 bouches à nourrir, je crois que même un hectare ne peut pas suffire. Quand on emblave un hectare, ça ne permet pas vraiment de subvenir aux besoins d'une famille moyenne. On peut noter aussi cela. Les terres, tellement elles sont morcelées et elles sont surexploitées, on assiste à un lessivage de ce sol. Le rendement est très faible. On n'arrive pas vraiment à produire une quantité suffisante donc, au terme de la saison pluvieuse. Et pour dire que vraiment, dans le département de Kanché, quand on enlève les terres où se trouvent les vallées, les sols dunaires sont extrêmement lessivés. Tellement qu'ils sont surexploités, ils n'arrivent pas à beaucoup produire.
Est-ce que cela ne fait pas partie des raisons qui poussent les femmes à aller en migration?
Oui, c'est que la principale raison, c'est cette insécurité alimentaire. Tant que les terres sont lessivées, il n'y a pas un rendement important qui va permettre peut-être de subvenir aux besoins de la famille. C'est une cause indéniable de ce départ-là. Tout laisse à croire que ce départ-là, c'est en fait, on part pour chercher à manger. Et quand il n'y a pas à manger au sein de la famille, on est obligé d'aller pour chercher quelque part à manger. Pour dire que vraiment, les jeunes et les autres qui partent, ils ont un seul objectif, celui d'aller chercher quoi manger. Même s'ils n'en voient pas, si eux, quand même, ils arrivent à manger là-bas, déjà, c'est des bouches de moins. C'est une stratégie d'adaptation. C'est une stratégie vraiment de survie qu'ils ont trouvée en cette question de migration.
Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est pas encore fini. Restez à l'écoute. Retrouvez tout de suite le forum de Studio Kalangou présenté par Seni Ayouba Kaka.